Studio Tamani, voici nos informations en français.
Et c'est avec Mariam Meiga la présentation. Mamadi Keita assure la mise en onde. Voici les titres. La baguette de pain est toujours vendue à 300 francs CFA à Bamako. Et cela malgré que le gouvernement et les syndicats se sont accordés la semaine dernière sur 270 francs CFA. Les consommateurs crient leur ras-le-bol. Comment booster la culture du soja et lutter contre l'insécurité alimentaire? La question était au cœur d'une rencontre tenue hier à Bamako entre les acteurs de la culture du soja. Entre complicité, amour et querelle, la relation entre frères et sœurs est toujours spéciale. Notre reporter Juliette Koulibaly s'est intéressée au sujet à l'occasion de la journée mondiale des frères et sœurs célébrée le 10 avril dernier. Monsieur et dames, bonjour et bienvenue. En accord avec les syndicats des boulangers et les livreurs de pain, le gouvernement a fixé le prix du gros pain à 270 francs CFA il y a une semaine. Mais sur le terrain, le constat est tout autre. Le pain est vendu à 300 francs CFA dans certaines boutiques de la capitale. Boulangeuses et livreurs de pain refusent toute responsabilité dans cette situation. Mariam Koulibaly nous en dit plus.
La baguette de pain est toujours vendue à 300 francs dans certaines boutiques de Bamako. Pourtant, elle devrait être cédée à 270 francs conformément à l'accord conclu entre le gouvernement et les acteurs de la filière pain. Le secrétaire général de la Fédération des boulangeries et pâtisseries assure que son organisation respecte l'accord passé avec les autorités.
Bon, si l'État dit 270 francs et puis il a même ordonné les 270 francs, les boulangers, vous avez telle somme, les livreurs, vous avez telle somme, et les boutiquiers, vous avez telle somme. Donc nous, on est dans cette fourchette-là. Si les boutiquiers ou bien autre personne va au-delà des prix du gouvernement, nous, on ne gère pas ça.
Les livreurs de pain qui sont au milieu de la chaîne ne se reconnaissent pas dans les faits. Ils vont jusqu'à demander aux autorités de sévir contre ceux qui ne respectent pas les prix convenus. Ama Ousmane Touré, président du syndicat national des revendeurs de pain au Mali.
Mais je n'ai pas quand même un peu demandé, tu baisses les prix du pain, mais tu ne peux pas augmenter ça. Mais rien qui a fait ça, tu vas punir. C'est qu'entre nous, avec les propriétaires de la boulangerie, il y a un quota. Un quota qu'on donne, les boutiques gagnent, nous, on gagne. Mais les prix d'espacement, 270 francs. C'est l'État qui va prendre les mesures. Quelqu'un qui a fait un cas frappé.
En espérant que les autorités agissent, les consommateurs se demandent réellement qui est à l'origine de cette hausse.
Sur le même sujet, les consommateurs qui subissent cette augmentation demandent une baisse du prix du pain. Selon eux, la baguette à 300 francs CFA n'est pas à la portée de tous, surtout en cette période de soudure couplée au Ramadan. Écoutons-les au micro de Mariam Koulibaly.
Je continue de vendre le pain pour que les enfants puissent avoir quelque chose à se mettre sous la dent pendant la récréation. Certes, le pays traverse des difficultés, mais c'est à tout le monde de faire des efforts.
La hausse du prix des pains nous inquiète énormément. Tout est devenu cher. On ne sait plus à quel sens se vouer. Aujourd'hui, tous les Maliens sont impactés par cette cherté.
Je demande aux autorités de revoir encore le prix du pain. C'est un aliment très consommé au Mali. La farine de blé qui nous sert aussi des compléments alimentaires est devenu cher. Vraiment, nous souffrons.
Nous vendons le pain pour accompagner les aliments que nous servons ici. Je n'en tire aucun bénéfice. J'achète une miche de pain à 300 francs.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. L'Union européenne arrête ses missions de formation et d'entraînement des forces armées et de la garde nationale du Mali. La déclaration a été faite par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. C'était au cours d'une réunion des ministres des Affaires européennes à Luxembourg. Ces formations militaires étaient destinées à soutenir les efforts de stabilisation du Mali et la démocratisation de l'armée. Le point avec Khalifa Goïta.
Selon Josep Borrell, cette décision se justifie par les événements diplomatiques tendus depuis un certain temps entre le Mali et le bloc européen. Toutefois, il précise que l'UE va poursuivre les formations sur les lois de la guerre car il faut que les militaires sachent que la guerre a des lois et des règles du jeu, indique-t-il. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité affirme donc que les événements leur forcent à cette décision. Il poursuit qu'ils n'ont pas obtenu de la junte les garanties de « nous n'abandonnons pas le Sahel », ajoute-t-il. Cette déclaration confirme L'annonce de cet arrêt de formation faite en premier lieu le 28 mars dernier par Josep Borrell toujours. À noter que l'Union européenne a plusieurs centaines de militaires et d'experts dans deux missions de formation au Mali. Il s'agit de l'EUTM pour les forces armées maliennes et l'EUCAP Sahel Mali pour la police. Le mandat de l'EUCAP approuvé en 2015 avait été prolongé au 31 janvier 2023. Celui de l'EUTM qui remonte à 2013 devait se poursuivre jusqu'au 18 mai 2024.
Autre titre du jour, avoir une production de 100 000 tonnes de soja dans les 5 ans à venir. C'est l'objectif d'un atelier national pour le développement de la culture du soja au Mali. La rencontre a été organisée mardi à Bamako par Jatropha Mali Initiative, en abrégé GMI, Institut international d'agriculture tropicale IITA et le ministère du développement durable. Le compte-rendu de Aïssata Diarra.
Ces échanges visent à faire des propositions pour diversifier et booster la culture du soja au Mali, mais aussi de lutter contre l'insécurité alimentaire. Issouf Traoré, vice-président du Jatropha Mali Initiative.
Il faut noter aussi que le soja est un intrant important pour l'alimentation humaine à travers son huile, son lait et bien d'autres mains dérivés. Donc, tout à fait nécessaire pour la sécurité alimentaire de nos populations. Et surtout, développer des systèmes de production agroforestière qui préservent la fertilité de nos sols.
Pour Modibo Keïta, ministre du Développement durable, le Mali a fortement besoin d'augmenter sa production du soja.
Le soja est facile à produire. Cette culture convient parfaitement à notre système de production où nous cherchons à diversifier nos produits agricoles, couvrir nos pâturages par les fourrages, augmenter les revenus des producteurs agricoles et améliorer leurs conditions de travail. La tenue du présent atelier vise à montrer tous les avantages que peut offrir le développement de la filière soja dans notre pays.
Le soja est une plante d'origine chinoise cultivée au Mali depuis plusieurs années avec une production annuelle d'environ 15 000 tonnes.
En marge à cette rencontre, un contrat de 32 milliards de nos francs pour la sécurité alimentaire a été annoncé pour la culture du soja. Selon Bart Ouvry, ambassadeur de l'Union européenne au Mali, cette aide a été soumise par l'Union européenne aux autorités maliennes. Il est au micro de Aïssata Diarra.
L'Union européenne au Mali est très engagée sur la sécurité alimentaire. Nous venons de proposer à l'État malien un contrat pour une valeur de 32 milliards de francs CFA qui sera exécuté par le Programme alimentaire mondial qui portera uniquement sur la sécurité alimentaire. Rappelez que nous sommes aussi, outre la sécurité alimentaire où on veut augmenter les capacités, nous maintenons aussi notre action en matière de aide alimentaire pour les ménages qui en ont le plus besoin. En vous rassurant, dans l'actualité, on parle beaucoup de certaines opérations qui seront peut-être suspendues pendant quelques temps, mais je peux vous dire que sur ces matières, nous sommes aux côtés des Maliens et nous resterons aux côtés des Maliens en tant qu'Union européenne au Mali.
Sur un tout autre sujet, équiper les journalistes dans les techniques du fact-checking. C'est le thème d'un atelier de formation qui a débuté mardi à Bamako. Cette session de 4 jours a pour objectif de renforcer les capacités des journalistes maliens afin qu'ils sachent faire la différence entre une information vraie et une information fausse ou douteuse. Une initiative d'Appel Mali en partenariat avec Twindy et Amnesty International. Notre reporter Elisabeth Ouellet Mohamed Cissé était sur place. Voici son compte-rendu.
Sur Internet, on retrouve toutes sortes d'informations dont un grand nombre sont malheureusement infondées. Il s'agit entre autres des photos sorties de leur contexte ou des affirmations non vérifiées. Pour Tidjani Togola, président de Twindy Mali, être un professionnel de médias est une lourde responsabilité.
Vous ne serez véritablement considéré comme professionnel que lorsque les informations que vous donnerez seront avérées, suivront des règles que vous aurez acquises par la suite des différentes formations.
Ces propos sont partagés par Modibo Fofana, président d'Appel Mali. Pour lui, cette formation est primordiale, surtout dans le contexte actuel du pays.
Il est tout à fait évident que la question de gestion du fake news se pose aujourd'hui avec acuité. Le sujet est encore plus pointu si nous jetons un regard avec tout ce qui se passe comme dérapage déontologique. C'est à nous de faire l'effort de ne pas tomber dans cette faute.
Ils sont une trentaine de participants à bénéficier de cet atelier de formation. Tous sont unanimes sur l'importance de pouvoir donner des informations fiables et correctes aux auditeurs. auditeurs. Certains nous parlent de leurs attentes.
On s'attend à être bien outillés, renforcés sur cette capacité de mieux faire notre travail.
Vous apportez plus de connaissances dans le domaine de vérification des informations.
Actuellement, il y a plus de mauvaises informations que les vraies informations.
Nous sommes dans un contexte très crucial où l'information passe de façon désordonnée. Donc, si nous avons les outils nécessaires, en tout cas pour aller vers la vérification, n'est-ce pas, des faits, je pense que c'est vraiment une très bonne chose.
La direction de la Maison de la Presse, par voie de son représentant, a réaffirmé son engagement à accompagner ce processus.
Parlons de ce fait de société à présent. Avoir un frère ou une sœur est une bénédiction. Cette relation est couronnée par l'entraide, la complicité et le vivre ensemble. Mais des fois, ça se passe avec des petites querelles. Comment se porte la relation entre frères et sœurs? Élément de réponse dans ce reportage de Gillette Koulibaly dans la mouvance de la Journée mondiale des frères et sœurs célébrée le 10 avril dernier.
L'amour est la chose la plus sacrée dans la relation entre frères et sœurs. Cette relation est aussi marquée par le respect mutuel, comme nous affirment certains habitants.
Il existe un lien vraiment fort entre nous. Surtout mon grand frère, il est mon conseiller spécial. Bon, avec mes petits frères, on cause à taille, on rigole ensemble, on fait des affairages.
Souvent, j'ai quelques problèmes avec, surtout avec mon grand frère. Il arrive souvent que je m'énerve et il arrive que je puisse glisser des mots qui peuvent le blesser aussi. Mais entre-temps, bon, c'est un grand frère et la vie continue.
Et cet amour fraternel ne doit pas être violé, selon Ben Chérif Diabaté, traditionnaliste. Cette relation de complicité, de joie, est de plus en plus entachée par des petites querelles. Cependant, il estime que seul le dialogue peut renforcer ce lien de sang.
L'humanité, elle change. Donc le monde change et puis il faudra toujours faire attention. Ce que les frères ou les sœurs peuvent faire, c'est de faire recours à nos mécanismes traditionnels positifs qui régissent le vivre ensemble. Il y a les cousins, il y a le fils de la tante, le fils du petit frère du papa.
Le peuple malien a besoin d'un tel amour entre frères et sœurs pour faire face aux défis actuels du pays, affirment certains observateurs.
Sport à présent, le comité exécutif de la Fédération malienne de football a lancé l'appel à candidature pour le recrutement d'un nouveau sélectionneur. Ce poste est ouvert depuis lundi dernier. Le dépôt des dossiers va se poursuivre jusqu'au mercredi prochain, 20 avril. Après l'échec des Aigles du Mali à la qualification pour le Mondial Qatar 2022, la FEMAFOOT a limogé Mohamed Magasouba. L'Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali souhaite que le futur coach soit expérimenté. Pour des consultants sportifs, il doit aussi être un coach qui connaît le football africain. Omar Waigalo.
Pour l'Union nationale des associations et des supporters des Aigles, ce nouveau coach doit être un entraîneur plus expérimenté et capable de corriger les lacunes de l'équipe nationale. Souleymane Diabaté, président de l'INASAM.
Décisif, ils disent la vérité à ces jeunes-là. Un entraîneur expérimenté aussi, c'est très important. Ce qui manque beaucoup à l'équipe, ça c'est un numéro 10, c'est un meneur de terrain. Le Mali n'en a pas.
Pour certains consultants sportifs, le nouvel entraîneur doit connaître le football africain en général et surtout celui du Mali. Drissa Nyono, journaliste consultant sportif, affirme qu'il est temps de recruter un entraîneur qui peut apporter un changement dans l'animation offensive des Aigles.
Il doit être un entraîneur jeune qui connaît également le football africain. La première des choses, c'est instaurer une discipline, corriger surtout l'aspect offensif pour que l'équipe, au-delà de la domination, qu'elle parvient à marquer surtout des buts.
Rappelons que le coach Mohamed Magasouba et son staff ont été limogés. C'était suite à l'élimination des Aigles du Mali au match des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Son futur remplaçant se chargera de la préparation des Aigles pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, le stationnement des camions gros porteurs sur la voie principale est interdit à Maïna. Le maire de la commune a adressé le 11 avril dernier une correspondance à la brigade territoriale de Bafoulabé afin qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour appliquer la mesure. Le maire a indiqué dans sa lettre que le stationnement des camions gros porteurs sur la route crée des embouteillages et empêche surtout les élèves à se frayer un chemin pour aller à l'école. Restons en première région où la maison d'arrêt et de correction de Caille vient de bénéficier de 8 lampadaires solaires. La remise s'est effectuée le 11 avril dernier en présence des autorités locales. Le geste est du Centre d'assistance et de promotion des droits humains CAPDH. Il a été réalisé avec l'appui financier de l'ambassade royale de Danemark au Mali à travers le fonds d'appui aux moteurs de changement FAMOC. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. Mamadi Keïta a assuré la technique. Ne décrochez pas car l'info continue. C'est dans ta manie.